Il est 1h du matin à Tel Aviv et à Kiev, 23h temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est tout juste minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la Radio du Monde et c'est Mathis Slimano. Slimano, c'est bien Slimano qui va nous informer. Bonsoir mon cher Mathis.
Et bonsoir mon cher Zéphirin, merci à vous. L'actualité internationale marquée par cette prolongation d'un mois et demi de la trêve à Gaza. C'est en tout cas le souhait d'Israël qui veut ramener les 63 otages restants. Censé prendre fin samedi, la première phase de l'accord tient bon malgré de nombreuses tensions. Israël refuse toujours de libérer plus de 600 prisonniers palestiniens. En cause, les cérémonie du Hamas jugée humiliante autour des libérations d'otages. Si aucun accord n'est conclu d'ici ce week-end, Israël menace de reprendre la guerre. Les autorités de Taïwan en alerte. Un câble sous-marin sectionné le long des côtes taïwanaises. Un navire battant pavillon togolais intercepté. À son bord, un équipage chinois. Pékin rejette toute responsabilité. Et puis au Royaume-Uni, un collectif d'artistes proteste contre la place grandissante de l'IA dans le monde de la musique en publiant un album de silence. Le gouvernement israélien réclame une prolongation de la première phase du cessez-le-feu. Elle est censée prendre fin samedi et a déjà permis la libération d'une trentaine d'otages contre plus d'un millier de prisonniers palestiniens. Mais alors qu'Israël bloque la libération d'une nouvelle vague de détenus, les discussions sur la suite de la trêve se poursuivent, Pierre-Olivier.
La presse israélienne se fait l'écho aujourd'hui de discussions tenues à Washington ces dernières heures entre une délégation israélienne et l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui a déclaré à CNN qu'il fallait obtenir une prolongation de la première phase du cessez-le-feu, phase pendant laquelle les otages israéliens sont libérés par l'eau et qui doit se terminer dans quelques jours début mars. Israël veut donc continuer cette phase en échange de prisonniers palestiniens et menace de reprendre la guerre si le Hamas refuse. Mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle, car le mouvement islamique attend toujours la libération des 602 prisonniers qui étaient prévus samedi dernier en échange de 6 otages israéliens. Benjamin Netanyahou avait alors expliqué qu'il gelait la libération des prisonniers en représailles aux mises en scène sordides du Hamas lors des restitutions d'otages. 4 corps doivent être remis à l'État hébreu et si tout se passe sobrement, Israël pourrait relâcher les 602 prisonniers samedi prochain et ainsi débloquer les discussions pour la suite du cessez-le-feu. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Des discussions entre le Hamas et Israël qui n'ont donc toujours pas débuté à quelques jours du terme de la première phase. 2 issues sont possibles si aucun accord n'est conclu d'ici vendredi. La poursuite de la trêve mais sans nouvelle libération ou la reprise des combats à Gaza menace le gouvernement israélien. Et dans l'autre enclave palestinienne, en Cisjordanie, ce n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Les chars de l'armée israélienne sont toujours à Jenin dans le nord depuis dimanche. Les habitants dénoncent une guerre d'infrastructures. L'armée israélienne s'en prend spécifiquement au réseau de distribution d'eau et aux routes défoncées par des bulldozers. L'opération Mur de fer, lancée il y a un mois, a déjà contraint 40 000 personnes à fuir les camps de réfugiés. Volodymyr Zelensky pourrait s'envoler vendredi pour Washington. Ukrainiens et Américains semblent être tombés d'accord sur les minerais présents en Ukraine. Un accord qui pourrait donc être signé dès vendredi entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Une trêve à courte échéance a été évoquée lundi à la Maison Blanche entre Donald Trump et Emmanuel Macron. La rencontre au cœur d'une réunion des dirigeants européens ce mercredi à Moscou. On salue la position équilibrée du président américain. Et puis le pape a repris le travail depuis sa chambre d'hôpital. François a signé des décrets de canonisation, dit le Vatican, qui précise que son état de santé reste critique mais ne se dégrade plus. À 88 ans, le souverain pontife est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie. On prend les mêmes et on recommence. 4 mois après son échec en Colombie, la COP16 biodiversité vient de reprendre en Italie. Les délégués de plus de 150 pays réunis autour de la protection de la nature et au cœur des échanges, les mécanismes de financement pour préserver la biodiversité, un sujet qui divise entre pays du Nord et du Sud. Mais des divergences pas insurmontables, estime la présidente de la COP. La ministre colombienne de l'Environnement, Susana Muhammad, espère encore que les pays du monde agiront ensemble en en matière d'environnement, car l'enjeu est de taille, préserver la vie sur Terre.
C'est l'une des politiques qui a le pouvoir d'unir le monde, et ce n'est pas rien dans le paysage géopolitique actuel qui est très polarisé, fragmenté et suscite la discorde. Nous avons une importante responsabilité ici, à Rome. En cette année 2025, nous pouvons envoyer une lueur d'espoir et dire que, malgré nos différences, malgré les tensions, malgré les marges budgétaires limitées dans les pays du Nord comme ceux du Sud, et malgré les conflits armés, nous pouvons dire que nous sommes encore capables de travailler ensemble pour quelque chose qui transcende nos intérêts propres et nous connecte tous. C'est la vie elle-même.
And it is life itself.
La présidente de la COP16 Biodiversité, Susana Muhammad, avec Lucille Gimbert. Les autorités chiliennes écartent la piste d'une attaque. Depuis plus de 4 heures maintenant, une grande partie du pays est plongée dans le noir. La faute à une panne de courant massive qui paralyse le Chili. À Santiago, la capitale, le métro a dû être évacué, le service suspendu. Hôpitaux et prisons fonctionnent normalement, rassurent les autorités qui espèrent un retour à la normale dans les prochaines heures. On traverse le Pacifique avec ce nouveau câble sous-marin sectionné. Un incident qui rappelle ceux en mer Baltique. Cette fois, c'est au large de Taïwan. La marine taïwanaise dit avoir intercepté un navire suspect. En haut de son mât, un drapeau du Togo. Mais à bord, l'équipage est chinois, Nathanaël Vitran.
Ces câbles sous-marins sont devenus essentiels pour relier les différents continents. D'abord au téléphone, aujourd'hui pour les télécommunications numériques en tout genre. Ces câbles sont régulièrement sectionnés, parfois de causes naturelles. Par accident, quand un chalutier laisse traîner son ancre ou un filet de pêche. Mais face à la multiplication des incidents impliquant des navires chinois, Taïwan parle de plus en plus ouvertement d'opérations de sabotage. Pour l'heure, les gardes-côtes taïwanais ont escorté, c'est le terme employé, le navire en question jusqu'à Taïwan. Le temps de l'enquête. Les autorités de l'île soupçonnent une nouvelle tentative de déstabilisation, alors que Pékin considère toujours que l'archipel fait partie intégrante de la Chine. Ces câbles ont une importance stratégique pour Taïwan, reliés au reste du monde par 14 câbles sous-marins. En interne, 10 autres permettent de maintenir la communication entre les 88 îles de l'archipel.
Et du côté de Pékin, on dit ne pas être au courant d'un tel incident. À peine ramené en France, Mohamed Amra est mis en examen. Le fugitif le plus recherché du pays a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, vol et évasion, le tout en bande organisée. En mai dernier, celui qu'on surnomme la mouche s'était échappé de son transfert pénitentiaire grâce à l'attaque d'un commando. Deux agents avaient été tués. Après 9 mois de cavale, il a été interpellé ce week-end en Roumanie. 24 complices présumés étaient toujours en garde à vue mardi soir. La Réunion, placée en alerte orange ce mercredi à l'approche de la tempête Garance, elle devrait frapper l'île française de l'océan Indien vers 14h, heure locale. Garance, qui pourrait s'intensifier en cyclone, est une menace importante et sérieuse, met en garde Météo France. Comment protester en tant qu'artiste contre la place grandissante de l'intelligence artificielle, alors qu'au Royaume-Uni, le gouvernement envisage d'exempter de droits d'auteur l'utilisation d'œuvres quand celles-ci servent à entraîner des modèles d'IA générative. Un collectif d'artistes a publié ce mardi un album un peu spécial, Emeline Vin.
12 pistes, 47 minutes de quasi-silence. Mis bout à bout, les titres de l'album « Est-ce cela que vous voulez ?» forment la phrase « Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le pillage musical pour le bénéfice des entreprises de l'intelligence artificielle. Parmi les 1000 artistes qui ont enregistré leur studio vide, Kate Bush, Hans Zimmer ou encore les Clash, le silence de l'album représente selon eux l'impact qu'auront les plans du gouvernement sur l'industrie musicale britannique. Downing Street envisage d'autoriser les entreprises de l'IA à utiliser des œuvres pour entraîner leur modèle génératif sans avoir à verser de droits d'auteur. Une quarantaine d'artistes publient aussi ce mardi une lettre ouverte dans le Times, parmi lesquels Ed Sheeran, Elton John et l'acteur Stephen Fry pour dénoncer une mesure qui risque de saper la créativité britannique. Le gouvernement rappelle que le projet est encore en phase de consultation, mais juge nécessaire l'assouplissement des lois liées au copyright pour attirer les investissements technologiques. Emeline Van Londres, RFI.
Et pour avoir du silence, il ne fallait pas être au stade Pierre de Coubertin ce mardi soir, le stade du club de Cannes dans le sud de la France, qui a exulté au coup de sifflet final. L'un des petits poussés de Coupe de France poursuit sa belle aventure en sortant Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, et file donc en demi-finale. Match de coupe aussi en Espagne, une pluie de buts, 4 de chaque côté, entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Match retour le 2 avril.